Bienvenue sur Fréquence Mistral, si vous nous rejoignez. Nous recevons François Malabaf pour parler des rencontres Giono avec Jacques Meny. Bonjour François.
Bonjour Chloé, bonjour à tous. Et évidemment, nous sommes à Manosque, donc Giono est aussi chez lui, ici même. C'est avec grand plaisir que je reçois le président de l'association des amis de Jean Giono et qui est aussi un ami de François Malabaf, Jacques Meny. Bonjour Jacques.
Bonjour François.
Avec beaucoup de simplicité et en même temps beaucoup de joie de te recevoir pour... J'ai dit tu,
oui.
Comme on fait dans la vie.
Comme on fait dans la vie.
Pour parler de ces 14e rencontres Giono, mais ce ne sera pas le seul sujet. On va parler également de l'exposition qui est en préparation au MUCEM à Marseille, oui. À l'occasion du 50e anniversaire de la disparition du grand écrivain. On parlera aussi de la revue Jean Giono, aussi, qui est
parue en juin,
voilà. Qui est parue dernièrement. Mais bien sûr, nous allons parler de la nature et de cette manifestation particulière, les rencontres Giono, où l'on mélange un petit peu la littérature avec la musique, avec le théâtre, avec le cinéma, avec beaucoup de choses. En fait, c'est ce que faisait Giono dans sa vie.
Bah, c'est parti, cette idée d'élargir depuis 2006.
Bien avant, oui.
Depuis 2006, où j'ai transformé ce qui était des journées associatives animées par mes prédécesseurs qui étaient d'éminents universitaires. J'ai voulu faire rentrer de façon professionnelle différentes disciplines, le théâtre, des lectures professionnelles, le cinéma depuis quelque temps et la musique.
Et on a toujours les conférences. Quand
et
même.
On a les conférences, les débats, les cafés littéraires, on a des écrivains qui viennent, etc. Oui, l'évolution s'est faite en quelques années, mais là maintenant on est sur un bon rythme de croisière. Ma seule déception sur ces 15 dernières années finalement, c'est finalement d'avoir très peu mordu sur un autre public, le public vraiment passionné par l'œuvre de Giono. C'est une des raisons pour lesquelles cette année il n'y a pas d'acteurs, de comédiens vedettes comme en lecture, comme Marie-Christine Barrou l'année dernière par exemple, ou Samuel Labarthe, ou Thibault de Montalembert, parce que mon but c'était, en les faisant venir, de faire venir un public qui pouvait être attiré par leur présence, bien
et
sûr, leur nom,
journaux.
Et découvrir Giono à cette occasion, et ça, la mayonnaise ne prend pas, à mon avis, c'est... Giono fait peut-être un peu peur encore. C'est pas un écrivain, c'est pas Pagnol, hein. C'est pas un écrivain populaire. C'est un écrivain exigeant, difficile parfois d'abord dans son œuvre. Et en plus, bon, est-ce que le terreau manosquin est... Et bon, par plaisanterie, je dis souvent à nos amis des responsables culturels de la ville que si je faisais ça à Aix, j'aurais quatre fois plus de monde. Mais c'est pas impossible.
Il est pourtant nécessaire, voire urgent, de le faire de
à
toute
Manosque.
Manière ici à
oui,
Manosque,
oui, bien sûr.
Là où nous sommes. Et tu sais que nous, de notre côté, on appuie l'action de l'association des amis de Jean Giono, de l'hôtel Raffin et des correspondances, enfin de tous les acteurs culturels, littéraires, et on demande aux Manosquins d'y participer très activement, de profiter de ces manifestations dans leur ville pour avoir des éclairages
sur le
monde.
Oui, parce que c'est des manifestations très vivantes, c'est pas des cours professoraux, surtout cette année, ça va être beaucoup à base de débats, d'entretiens et très peu de conférences magistrales entre guillemets. Et donc voilà, le but c'est il faut s'intéresser à la littérature, bien sûr,
un petit peu, c'est
la base. Mais j'imagine qu'il y a quand même sur le bassin de cette agglomération de plus de 60 000 habitants des personnes qui s'intéressent à la littérature en dehors des fidèles, qui sont de plus en plus nombreux par contre. Alors là, par contre, on a des adhérents de l'association qui prennent leurs vacances à Manosque pour venir aux rencontres. Ça, c'est nouveau depuis quelques années.
On va rappeler d'ailleurs que c'est l'une des plus grosses associations des amis d'écrivains. Jacques, l'association des amis
d'auteurs. Ah oui, sur les 250 et quelques associations d'amis d'auteurs en France, amis d'auteurs et d'écrivains. Oui, avec les amis de Colette, à Saint-Sauveur-en-Puisée, on est les deux premiers alternativement, autour de 600, un peu plus de 600 adhérents.
Avec des adhérents qui passent aussi parfois sur scène,
qui
font partager leurs travaux, leur amour de Giono,
oui,
c'est pas mal.
Et depuis le début de l'année, 40 nouveaux adhérents.
C'est bien.
Hein, ce qui est déjà, en moyenne, depuis plusieurs années, on fait 50 sur l'année, donc 40 à mi-course, ça augure bien. Et je pense que le cinquantenaire les manifestations du cinquantenaire pendant l'année Giono 2020, va certainement donner un coup de fouet aussi à l'association.
Oui, on l'espère, avec toi, évidemment. Les 14e rencontres Giono, alors c'est du 31 juillet jusqu'au 3 août, même si ça commence un petit peu avant, le 30 juillet, on va en parler. Jacques, avec le thème, on n'a pas encore dévoilé le thème, et pour cause, parce qu'il est vraiment d'actualité et il est un peu bifacé. On va dire qu'il y a du bon et du mauvais dans ce thème un peu particulier. Nous allons développer tout ça. C'est l'éloge de la nature. La nature est très présente dans l'œuvre de Giono.
Ah oui. C'est presque un cliché. On voit ça, c'est des clichés journalistiques, excuse-moi, mais c'est Giono, le chantre de la nature. D'abord, c'est vrai. Hein, incontestablement, il y a un amour de la nature et la nature est dans l'œuvre. En particulier à propos de l'arbre auquel on va consacrer toute la journée de vendredi 2 août, c'est certainement un des univers romanesques de la littérature française, en tout cas, où l'arbre est omniprésent ou a une telle présence. Hein. Parfois, c'est dès la première ligne. Plusieurs romans de Giono, dès la première ligne, premier paragraphe, la présence de l'arbre s'impose. Et oui, évidemment, la nature, il y a un amour de la nature qui s'est traduit dans des descriptions absolument extraordinaires. En même temps, cette nature est très ambivalente chez Giono parce qu'elle est souvent aussi extrêmement puissante, forte. C'est le mythe de Pan qui l'a réactualisé. C'est les puissances de la terre. Cette peur de la terre. C'est le titre d'un de ses textes qui s'empare des habitants des hauts plateaux, etc. Donc l'univers naturel chez Giono est très ambivalent. Hein. C'est aussi la montagne qui s'effondre dans Bataille dans la montagne, qui s'effondre sur une vallée, enfin, toute une inondation de glaciers qui envahit une vallée et contre laquelle l'homme va se battre. Il y a un affrontement homme-nature chez Giono, en même temps qu'il y a bien sûr une poésie et une exaltation poétique de la nature. Il y a des pages de « Que ma joie demeure » en particulier qui sont assez extraordinaires. Et en même temps, lui-même s'est aperçu que dans ses textes, parce qu'il faut différencier l'homme de l'écrivain sur ces choses-là. Dans son journal, il est émerveillé par ce qu'il voit de la fenêtre de son bureau presque chaque jour. Il n'y a qu'une chose qu'il supporte pas, c'est le soleil et le ciel nu, vide. Dans son œuvre, il y a à certains moments un recul de la nature parce que il s'est dit ça je sais le faire, je sais trop bien le faire, ces longues descriptions qui font 12 pages, je les enlève. Et c'est justement par une de ces descriptions qui n'a jamais été encore imprimée dans une œuvre de Giono et qui sera dans la revue Giono l'année prochaine que nous allons ouvrir. C'est une description du vent dans les disons sur le plateau d'Albion, entre Albion et Lure, voilà, qui est un passage inédit retrouvé récemment dans le manuscrit de Cavalier de l'Orage qui vient de passer en vente et qui a été acheté par notre ami Jean-Claude Helena. Et donc c'est extraordinaire. Et dans son journal, Giono se relit et note dans son journal, bon, coupez tout ça. 5 lignes suffiront. Donc voilà. Donc à partir d'un certain moment, il s'est dit que la nature devenait envahissante dans ses pages, en tout cas. Et c'est à ce moment-là qu'il a basculé à partir de 1938 vers une plus grande présence des personnages, où ces personnages sont devenus plus complexes aussi. Et donc même chez lui, il y a une évolution par rapport à ça. Et puis il y a l'autre aspect, donc un effet qui est à travers ses essais surtout politiques, pacifistes politiques, en particulier les vraies richesses, Triomphe de la vie aussi, mais les vraies richesses. Et puis, à cause du succès planétaire de l'homme qui plante des arbres...
Nous allons y venir, voilà. Jacques. Forcément, le livre le plus lu, probablement, au niveau mondial de Jean Giono, et le plus adapté au cinéma
au théâtre,
d'animation, etc. Et vous allez d'ailleurs lui consacrer cette année, dans votre manifestation, plusieurs... plusieurs interventions, oui. dont une intervention qui m'a marqué, parce que en plus des universitaires qui seront là, il y a quelqu'un qui connaît fort bien les arbres, et notamment autour de Manosque, mmh. c'est notre ami Michel Ingrand, de l'ONF, l'Office National des Forêts. Quelle bonne idée d'avoir invité enfin un homme, un vrai homme, qui plante des arbres, Jacques.
Oui, oui. Ah, mais il y en a d'autres. Hein.
C'est un descendant d'Elzéar Bouffier, peut-être.
Mais André Bûcher, l'écrivain paysan, ou le paysan écrivain, selon la formule
qui vit dans le Jabron,
qui vit dans le Jabron, me dit hier, mais moi je suis aussi un planteur d'arbres. Et en effet, il a planté beaucoup d'arbres. Donc oui, Michel Ingrand, ben, c'était intéressant d'avoir le point de vue des forestiers, d'autant plus que on s'aperçoit que quand Genoux a écrit ce texte, en effet, mondialement connu, traduit dans 50 langues, il y a une forêt Genoux près de Kyoto à cause de ce texte, etc. Michel Ingrand, c'était intéressant parce que il met bien le doigt sur le fait que Genoux était très informé des campagnes de reboisement. Il avait certainement des connaissances ou même des copains.
Des relations aux eaux et forêts, peut-être.
Dans les eaux et forêts, oui, sûrement. Et même le fait qu'il cite Vergonce, le nom de Vergonce, alors que le texte, en gros, est censé se passer plutôt du côté de la montagne de Lure, c'est significatif peut-être d'une grande campagne de reboisement qui a eu lieu pendant des décennies dans la région de Vergonce, à la limite du département, hein, et des Alpes-Maritimes. Et c'est surtout, la première réaction de Michel Ingrand, c'est de dire, mais si je fais ce métier, c'est à cause de l'homme qui plante des arbres. Et qui plus est, je le fais à Manosque. Je suis venu à Manosque peut-être à cause aussi de ce texte, et il ajoute, je ne suis pas le seul parmi mes collègues à avoir subi l'influence de ce texte. Voilà, et puis à partir de là, on parlera aussi reboisement, etc. Parce que bon, alors qu'on sait que chaque année, il y a des milliers, des centaines de milliers d'hectares de nature sauvage, nous ne parlons même pas de l'Amazonie, hein, qui sont détruites. On sait que aussi chaque année, dans tous les 10 ans, il y a l'équivalent d'un département français qui est perdu pour la terre, c'est-à-dire qui est complètement transformé en surface urbanisée, grande surface, parking, autoroute, banlieue, etc. L'équivalent d'un département. Ça veut dire que dans 90 ans, toute la France est devenue, si ça continue, est devenue une ville.
Alors là, le message, effectivement, de Jean Genoux, il est intéressant, puisqu'on on l'a dit tout à l'heure, chantre de l'écologie, c'est un mot qu'il n'a pas connu, écologie.
Non, c'est un mot qu'il n'emploie jamais, contrairement à des écrivains d'aujourd'hui, alors là, qui vont être là et qu'il emploie dans le... Lui, il ne l'a pas connu, et c'est après sa mort qu'il est devenu, je dis, c'est un écologiste posthume, parce que c'est après sa mort, pas longtemps après, que, à travers l'homme qui plantait des arbres, des publications écologiques, je pense aux Sauvages, qui avait été lancé par Père Adriel, le fondateur du Nouvel Observateur, qui était au début des années 70, un des premiers en France, puis il y a eu des publications, il y en avait déjà aussi, ça a commencé tout ça plutôt aux États-Unis d'ailleurs, il y en avait à l'étranger. Bon, Le Sauvage publie L'homme qui plantait des arbres, qui à l'époque d'ailleurs, ce n'est plus le cas, hein, était libre de droit pour toutes ses publications. Genoux avait laissé ses droits de son vivant, aucun droit sur la publication de ce texte.
Pour pouvoir mieux coloniser
la
planète.
Oui, pour mieux coloniser, pour que les arbres puissent coloniser la planète. Donc aujourd'hui c'est devenu presque un cliché qui colle à la peau de Genoux. C'est donc on va essayer de décortiquer un petit peu la chose, parce que Genoux était un proto-écologiste, un pré-écologiste, un précurseur, un visionnaire, un prophète. On a tout lu dans les... Et en même temps, chez les spécialistes savants de Genoux, qui sont mes amis et qui ont été mes prédécesseurs aussi, il y a une très forte réticence contre ce cliché.
Ils veulent rester littéraires.
Il y a ça d'abord, et ensuite, est-ce que Genoux avait une vraie conscience écologique? Il y avait surtout la conscience du bon sens, mais en même temps, toutes ces analyses des années 30, donc en effet au moment où on a l'industrialisation qui marche à fond,
l'agriculture intensive
avec la guerre qui arrive, etc. Toutes ces intuitions des années 30, l'anticapitalisme autant que l'antilibéralisme d'ailleurs, C'est déjà dans les vraies richesses. L'épuisement des ressources, la pollution, tout ça est déjà dans les années 30 dans les textes de Giono, l'urbanisation qui va tout finalement capter et d'une certaine manière détruire. Faut quand même pas oublier qu'il y a ce passage tout à fait extraordinaire, apocalyptique dans les vraies richesses, où c'est comme une forêt en marche, toute la paysannerie française qui monte sur Paris pour détruire Paris et laisser la nature reprendre ses droits à la place de Paris, y compris le Louvre.
Tout à l'heure, Jacques, tu parlais de Pagnol. Pagnol a écrit des choses magnifiques, mais uniquement sur l'eau. Il a écrit Le Château de ma mère, Manon des sources, etc. Donc il s'est intéressé à l'eau, et puis peut-être aux tourterelles, aux Bartavelles, très bien.
Bartavelles, oui.
Bref, là, on sent que chez Giono, il y a quelque chose de beaucoup plus profond que ça.
C'est vraiment un polémiste dans les années 30, hein, un pamphlétaire polémiste, qui a vraiment vu les enjeux. À cette époque-là, ça a été tourné en dérision.
Je suppose, hein,
Il y a une dédicace que j'aime beaucoup. Giono dédicace Les Vraies Richesses en 1943, donc pendant l'occupation, à un lecteur ou un ami, je sais plus, bon. Et il écrit à Monsieur Untel, ce livre qui a fait beaucoup rire autour de 1937. c'était l'époque, puis en plus, il y allait pas de main morte, puisqu'il disait, bon, l'ouvrier, finalement, s'est fait le complice de son exploiteur, le capitalisme, alors que le paysan reste libre, etc. Donc il y avait une exaltation de la race paysanne, pas de la classe, de la race paysanne, qui l'opposait à la classe ouvrière. Alors évidemment, là-dessus, le Parti communiste, tout le monde lui est tombé dessus en disant que c'était Monsieur Giono pense, on ne peut pas l'en empêcher malheureusement. Voilà, c'était ça qu'on lisait dans la presse. C'était Nizan qui disait bon, c'est des textes d'une lâcheté intellectuelle absolue, etc., etc. Aujourd'hui, tout le monde dit oh mais c'est incroyable. Alors il a dit dans les années 30 ce que aujourd'hui on constate. Et oui, on parlait des vraies richesses. Il y a des phrases extraordinaires. Celle-ci, par exemple, hein, qui nous parle à nous en 2019, et ça, c'est écrit en 1935. Hein. Les hommes ont créé une planète nouvelle, la planète de la misère et du malheur des corps. Ils ont déserté la Terre, ils ne veulent plus que ce qu'ils inventent et fabriquent eux-mêmes. C'est-à-dire qu'il a quand même vu tout de suite que l'homme s'était mis au centre de tout et était en train de tout détruire autour de lui.
On peut mettre les GAFAM dans tout ça. Hein,
oui, absolument.
Google, Facebook.
Et donc, aujourd'hui, cette démesure prométhéenne, dont nous parlera très bien un philosophe de nos amis qui est déjà venu il y a 2 ans pour parler du monde animal, et dans la philosophie, mais il a écrit un livre qui s'appelle La haine de la nature, ou un livre d'un pessimisme absolu. La seule solution, dit-il en conclusion, c'est un droit coercitif qui empêche tout le monde, les gouvernements n'en parlons pas, de finir de piller la planète et de surtout de la mettre complètement. Travailler sur ce sujet, ça c'est pas du tout marrant, hein, parce que je
rappelle en plus aujourd'hui c'est un jour particulier,
oui.
Jacques,
oui.
Tu le sais, c'est le jour du dépassement, c'est-à-dire que
on vit à crédit là.
Voilà, les terriens ont utilisé les ressources qu'ils peuvent renouveler, et à partir d'aujourd'hui, ben on va détruire ce qui existe. Et donc ça, c'est terrible, parce que Giono n'a pas connu ce genre de
réflexion.
Non,
pas du tout.
Mais je voudrais mettre en relation aussi ce que tu disais sur Giono qui faisait rire en 1937 sur ses annonces. Il y a 30 ans à peine, le climatologue Jean Jouzel faisait rire dans les salons en parlant de réchauffement climatique.
Oui,
et on y est. Voilà, il faut faire attention et il faut évidemment préserver la Terre, préserver la planète. C'est un petit peu le sens quand même de ces rencontres Giono.
Tout à fait, oui.
Avec évidemment des rencontres plutôt costauds, hein, littéraires, des cafés littéraires.
Et puis on va aborder une nouvelle forme d'études littéraires qui n'a jamais été... Il y a eu quelques études à propos de Giono déjà faites dans ce sens, mais qui n'a jamais été abordée en tout cas globalement. Dans aucun colloque, dans aucune rencontre, dans aucun travail sur Giono, c'est une nouvelle forme d'approche de la littérature critique, si on veut, qui s'appelle l'éco-critique, qui est où l'université commence à s'intéresser au rapport de la littérature avec la nature, avec ce qu'on appelle l'écriture de la nature, qui est une traduction d'une expression américaine d'ailleurs, et une autre forme de littérature qui commence à vraiment prendre d'importance au niveau du sujet à ce moment-là, c'est l'écriture environnementale, qui est un peu différente.
C'est le prisme de l'environnement.
Ouais, voilà. Et là, ça devient un sujet extrêmement important dans beaucoup de livres. Alors, avec cette question qui, évidemment, surtout en France, où la littérature est très centrée sur elle-même, beaucoup plus qu'aux États-Unis, c'est la question de savoir, bon, mais un mauvais livre mal écrit qui parle de la nature est-il l'équivalent d'un bon livre mal écrit, bien écrit qui ne parle pas de la nature?
On va pas donner de nom, hein, Jacques, bon. C'est pas la peine.
Mais en même temps, ce regard critique sur la littérature qui passe par le biais de, en effet, l'écriture de la nature ou des problématiques environnementales, permet de redécouvrir des écrivains qui ont été dans leur temps très connus, en particulier notre ami Pierre Changes, qui enseigne en Belgique et qui est un spécialiste d'éco-critique, a ressuscité l'œuvre de Pierre Gascard. Pierre Gascard qui a écrit 50 livres, qui a eu le Goncourt, qui a eu le Grand Prix de l'Académie française, etc. Pierre Gascard, dont Giono a les livres dans sa bibliothèque, elle les a conservés, dédicacés d'ailleurs. Et voilà un écrivain totalement oublié que cette nouvelle forme de critique redécouvre, parce que là aussi il y a une pensée qui anticipe sur les situations actuelles.
On va essayer de plonger dans le programme, Jacques, en essayant de faire court, parce qu'on a d'autres sujets à évoquer. Ça démarre non pas à Manosque, mais à Bannon, chez nos amis Marc et Isabelle au Bleuet, à 21h le mardi 30 juillet.
Oui, demain mardi 30 juillet, c'est le prologue, maintenant c'est devenu rituel, donc il y aura des lectures, des projections, des discussions... À bâton rompu, là.
Et ça permet de se rencontrer en même temps.
Et on se rencontre.
Passer 3-4 jours ensemble.
Voilà, c'est le lancement se fait maintenant au Bleuet à Bannon. Et mercredi, il y a un démarrage manosquin. Alors, à 18h sur la place de l'Hôtel de Ville, à la terrasse de...
Au goût des livres.
Au goût des livres, une lecture par Michel Félicien de L'homme qui plantait des arbres.
Attention, ça n'est pas marqué dans le programme.
Oui, oui, oui.
Et donc, écoutez bien ce que vient de dire.
18h, place de l'Hôtel de Ville,
mercredi 31,
suivi par un concert de harpe dédié à Giono, par une manosquine, qui a fait une carrière internationale ensuite.
Chloé Giro-Héro.
Oui, oui. Et puis, les trois journées vraiment consacrées à notre thème, nature et littérature, disons, et environnement, qui commencent jeudi. Avec surtout 3 écrivains, ça je suis très très heureux de ça, longtemps qu'on n'avait pas eu une telle présence des écrivains dans les rencontres, des écrivains d'aujourd'hui, alors notre ami René Frény, mais bon, voilà, qui d'ailleurs parle environnement dans son dernier livre, et à qui je faisais remarquer, je l'ai vu hier aussi, que quand même, depuis qu'il vit à la campagne, la nature est devenue quand même beaucoup plus présente.
Ceci explique cela.
Voilà, peut-être. Il y avait de la nature quand même dans mes premiers livres, etc. Mais là vraiment, on voit bien qu'il est au contact de la nature. Il a une vraie écriture de la nature. André Bûcher, qui vit à Montfroc, dans la vallée du Jabron, et qui est un écrivain important, qui, lui, est déjà entré dans les études sur l'écriture de la nature, les études universitaires. Et c'est le seul des 3. Et enfin, Emmanuel Pagano, qui est un écrivain très, très intéressant, très important, je pense, et qui a eu d'ailleurs pour le livre dont on parlera le plus, qui s'appelle Sauf Riverain, qui est le deuxième d'une trilogie, qui s'appelle La Trilogie des Rives, qui a eu le premier prix du roman de l'écologie il y a 2 ans. Et elle raconte... à la fois à travers le paysage, à travers la géologie, c'est un romanesque géologique, parce que le roman commence par l'éruption des volcans d'Auvergne et finit en 2016. Et c'est l'histoire de sa famille. Il y a une partie, sa famille paternelle et maternelle sont séparées par le Larzac. Et il y a la famille paternelle est originaire d'une vallée qui va être envahie par un lac de barrage. Ça nous fait beaucoup penser à l'eau vive, à ces réponses comme ça. Et elle nous raconte à la fois la mémoire de sa famille, la mémoire de la terre, l'évolution des paysages. C'est vraiment là je pense que là, les recherches sur l'écriture universitaire sur l'écriture de la nature vont avoir du grain à moudre avec l'œuvre d'Emmanuel Pagano.
C'est à 16h jeudi, jeudi 1er août, au théâtre Jean Le Bleu, bien sûr, à Manosque. Il y a aussi pas mal de lectures, évidemment Les Vraies Richesses, évidemment L'Homme qui plantait des arbres, mais qui sera décortiqué par justement toi-même, Christian Morzewski, et puis et Michel Ingram, dont nous parlions tout
et
à l'heure.
Et un certain nombre d'autres invités qui sont des artistes. Que ce soit un compositeur de musique contemporaine, Jean-Pierre Sévos, que ce soit des metteurs en scène qui vont présenter, on va présenter deux versions scéniques différentes chaque soir, jeudi et vendredi, deux adaptations scéniques différentes, dont une dans les jardins du Paraïs, ou au milieu des arbres du Paraïs, ce sera très bien, de L'Homme qui plantait des arbres, et le projet d'une compagnie musicale manosquine, c'est Picabou. Qui est coproduit par la collectivité et qui sera donné dans le cadre de Giono 2020. Et il faut quand même s'interroger sur la question... Bon, L'Homme qui plantait des arbres, c'est un des textes que n'aiment pas beaucoup en général les universitaires gioniens, ou en tout cas le traitent un peu comme
c'est,
ça.
Bon, c'est trop simple.
C'est un petit texte, bon, c'est une petite chose. Bon, c'est pas le plus grand Giono, c'est vrai, ça nous empêche pas de réfléchir au pourquoi du comment.
On peut s'interroger sur son succès.
Sur son succès, absolument. Oui. Et pourquoi chaque année, moi j'en reçois des demandes, oui, Sylvie Giono aussi, mais moi on me les communique parce qu'on se dit tiens, on va venir les jouer à Manosque. Il y a 10 ou 12 ou 15 ou 20 adaptations théâtrales, marionnettes, trucs, machin. On va même montrer l'extrait d'un film inédit en France, un film allemand de 1989. Dont le réalisateur est ravi, il vit toujours, qu'on en montre un extrait, Un homme qui plantait des arbres, un long métrage fait par un Allemand en 1989, qui n'est jamais sorti en France, le film. Et il y a des demandes de cinéma sans arrêt, de nouvelles. À un moment, Philippe Torreton avait dit qu'il voulait en tirer un nouveau film. Il y a des concerts. Georges Boeuf, le compositeur pour le Festival de Chaillol, a écrit Un homme qui plantait des arbres. Il y a des forêts. Il y a des mosaïques sculptures. Ce personnage est, alors, peut-être un peu trop envahissant, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt de la grande œuvre de Giono, voilà, c'est le cas de le dire. mais bon, il fallait bien qu'un jour on s'y attelle.
Et qu'il y ait une reconnaissance de ce texte.
Et qu'il y ait quand même une reconnaissance de ce texte, dont quand même, par exemple, notre ami Christian Morzewski considère que c'est un texte très très important, donc voilà.
Bien sûr, il y aura la projection du film d'animation de Frédéric Bach, merveilleux, ce sera le vendredi 2 août au théâtre Jean Le Bleu à 10h du matin.
Et puis, il y aura aussi une présentation des hommes d'aujourd'hui qui plantent des arbres, parce qu'il y en a beaucoup qui plantent des arbres. Il y a, par exemple, Stéphane Cazer, qui est un réalisateur aixois, qui est un copain, a fait, il y a quelques années, un film sur un monsieur qui a replanté à la manière des herbouffiers des arbres dans toute la montagne de Sainte-Victoire après l'incendie de 89. Mais il y en a en Inde. Il y a un homme qui a, Forestman, c'est un sujet que vous pouvez voir sur YouTube d'ailleurs, qui a replanté toute une île.
Ici même à Manosque, sur les remparts de la Thomasine, j'appelle bien les remparts, oui. Il y a eu une opération, notamment c'était Bernard Foussier qui avait organisé ça avec l'Association des Amis de Jean Giono, il y a plus de 20 ans. C'était justement de planter des pins, ce qui était peut-être pas l'espèce remarquable qu'il fallait planter là-haut, mais enfin, je ne sais pas où en est cette plantation, mais ils ont dû pousser, et ce sont les enfants de Manosque avec le CPIE qui avait planté ces arbres, les enfants qui plantaient des arbres. C'était une belle dynamique. Je me souviens avoir écrit là-dessus. Jacques, la manifestation, évidemment, il y a la promenade musicale qu'il ne faudra pas louper, c'est le vendredi. Et puis, le samedi 3 août, c'est au cinéma que ça termine, et au cinéma en plein air, avec un beau film.
Un chef-d'œuvre. Oui. Et j'ai hésité longtemps sur le choix du film. Alors, d'abord, j'aime beaucoup ces séances de cinéma. L'année dernière, elle a pas pu avoir lieu à cause de l'orage. On a regardé le film sur le DVD sur une télé à l'intérieur. Mais cette année, je crois qu'on aura, on n'a pas d'orage annoncé, semble-t-il, pour l'instant. Et donc, c'est Les Moissons du Ciel de Terrence Malick, le grand cinéaste américain, dont le dernier film était à Cannes cette année, et qui avait eu, pour ce film, le prix de la mise en scène à Cannes, qui a eu après, pour un autre film, La Palme d'Or, en 2011, je crois. Et Les Moissons du Ciel, c'est un film mythique. Alors, pourquoi Les Moissons du Ciel? Oui, j'ai longtemps hésité, parce que je me disais, je peux passer des documentaires, l'intelligence des arbres, etc. Je préférais la fiction. Et puis sur la suggestion d'une amie adhérente qui est une fan de Terrence Malick, je me suis dit, ah oui, tiens, Les Moissons du Ciel, j'ai revu le film, et le fait est, c'est un film tout à fait étonnant, parce que la nature y joue le même rôle que les personnages. C'est-à-dire que c'est rare d'avoir un film où on a autant de plans quasiment sur les acteurs, et c'est des grands acteurs, Sam Shepard, Richard Gere, etc., sur aussi bien une marmotte, un lapin, les grands espaces, et la photo est absolument extraordinaire. Elle a été faite par le grand chef opérateur français, enfin d'origine cubaine, mais français, Nestor Almendros, qui était l'opérateur d'Éric Rohmer et de François Truffaut, entre autres. Et Nestor Almendros tournait 20 minutes par jour. Il ne tournait qu'à l'heure, juste après le coucher du soleil et avant que la nuit tombe, hein, cette heure magique-là. Et la plupart du film est dans cette lumière-là. Et c'est d'ailleurs, il a eu l'Oscar de la photographie à Hollywood pour ce film. Et donc, projeté dans le jardin de Giono, ces grands espaces américains, je trouve que en esprit, c'est très très proche des premiers livres de Giono, y compris sur des rivalités de violence humaine très très frustes comme ça, et surtout par cette alors, il n'y a pas de fusion entre les personnages et la nature. C'est le film qui, lui, fait jouer la nature par rapport au personnage. Le cinéma contemporain s'intéresse très très peu à la nature, en dehors de quelques documentaires. On pense au film de Jacques Perrin, etc. On en a projeté, d'ailleurs, au Pareil, ici, il y a 2 ans. Mais que ce soit le cinéma, que ce soit la bande dessinée, que ce soit la chanson, fait remarquer Christian Gonin, la chanson contemporaine, la nature est très très peu présente. On est quand même dans une civilisation urbaine.
De consommation
urbaine. Et la littérature aussi a été pendant très longtemps. Moi j'ai quand même entendu un jour sur France Culture cette phrase hallucinante d'un critique qui disait « Il ne peut pas se faire de bonne littérature en dehors des villes, à part Faulkner ».
Bon, on peut être imbécile et passer à la radio, hein, oui. c'est possible.
Et le parisianisme pour les Français, doublé de cette idée qu'il n'est de bonnes choses que venues de la ville, je pense que là, il y a aussi un moment de bascule qui est en train de se faire. Mais tout savoir si c'est pas trop tard. Je vous cache pas que de préparer ces rencontres, ça m'a plutôt fait sombrer dans le pessimisme autre chose.
Donc la clôture, Les Moissons du Ciel, c'est évidemment projeté au Paraïs. Jacques, un mot sur la revue Giono qui est sortie il y a...
Un mois. Ben, la revue Giono est en grande partie le reflet des rencontres Giono de l'année dernière, consacrées aux héroïnes romanesques. On a un gros dossier sur les héroïnes romanesques de Giono, qui est un sujet qui est pas nouveau, mais enfin, là, on a un ensemble, je crois, assez rare avec, et ce ne sont que des regards de femmes. Spécialistes de Giono, toutes, mais qui sont très très intéressants. Et puis, on a une première partie des inédits du manuscrit de Deux Cavaliers de l'Orage, donc dont j'ai parlé tout à l'heure, alors ce manuscrit, c'est une histoire folle, parce qu'on ne sait pas, quand Giono s'en est séparé, on ne sait pas chez qui il a été, on ne sait pas pourquoi, on ne sait rien.
Et il atterrit dans les mains de Jean-Claude Hénard.
Et il atterrit, oui. On a négocié ensemble l'acquisition. Je pense même que les gens qui l'ont vendu savaient pas le trésor qu'il y avait dedans, parce qu'il y a 50 pages d'inédits, donc il y a déjà quelques fragments inédits dans cette revue. Il y en aura dans la revue de l'année prochaine, et surtout dans le grand numéro du Cahier de Lerne consacré à Giono. Là, il y aura un autre grand fragment inédit.
Encore des choses à découvrir.
Oui, mais là, vraiment, c'est un numéro assez intéressant, parce qu'il y a aussi une lettre inédite de Giono à André Gide pendant l'occupation. On savait qu'ils avaient continué à s'écrire, on n'avait jamais retrouvé aucune lettre. Et là, il y en avait une dans la collection de notre ami Roger Saille et de Gréou, qui est passée en vente, et l'association des amis de Jean Giono a pu en faire l'acquisition à cette occasion, et donc je la publie là, et elle intéresse tout le monde. Les amis d'André Gide veulent la publier aussi, elle sera aussi dans le cahier de l'Erne. C'est une lettre très intéressante où on sent vraiment toute la difficulté du vécu d'écrivain de Giono pendant l'occupation.
Cette période, oui.
Et puis il y a un beau dossier sur le peintre qu'on aime tous, Pierre Ambrogiani, qui a été à l'origine de l'écriture d'un des chefs-d'œuvre de Giono, Edmond. Parce que Edmond a été écrit, et ça on l'a découvert, enfin ce n'est pas dans la Pléiade justement, on l'a découvert il n'y a pas si longtemps que ça, c'est vraiment pour répondre à une demande d'Ambrogiani qui voulait faire un livre d'art avec lui que Giono a écrit dans cette espèce d'esprit d'improvisation, de manière d'improviser qu'il avait parfois très vite. Ce texte c'est absolument extraordinaire, qui
d'où ces personnages colorés, puissants,
fous,
c'est ça.
Et avec cette espèce de liberté d'écriture extraordinaire qu'il peut avoir quand il se lance comme ça dans un texte écrit très rapidement.
La revue est disponible en ce moment, Jacques ?
Oui, elle est dans les librairies, bien sûr, et elle peut être commandée, parce que de toute façon, maintenant, on a même un distributeur libraire. En toile de fond de tout ça, il y a tout le travail qui est en train de se faire pour préparer la grande année du cinquantenaire de la mort de Giono.
Voilà. Nous y arrivons avec un gros événement en préparation, et tu y participes, c'est bien sûr l'exposition au Mucem à Marseille.
L'exposition du Mucem à Marseille, non seulement j'y participe, mais j'en suis à l'origine, puisque je suis allé début 2016, sachant qu'il fallait aller très en amont pour organiser ce genre de choses. Je suis allé voir Jean-François Chounier, le président du Mucem, que je ne connaissais pas, et qui est devenu un ami, et qui ne m'a même pas posé de questions, et qui m'a même pas dit oui ni non. C'était déjà là. Lui, dans sa tête,
tellement
je pense,
logique.
Avait déjà,
oui.
Ça lui avait été suggéré par Pierre Berger, qui était un ami commun, et qu'il connaissait donc, et de faire Giono au Mucem. Et donc, en allant le voir, finalement, on lui apportait, évidemment, tous les manuscrits de Giono vont être exposés, etc. Bon, les documents, c'est 90% de ce qui est exposé, 80% disons.
Ça va être un gros événement.
C'est les collections de Sylvie Giono et de l'association. Oui. C'est un énorme événement. Je ne connais pas une institution en France qui aurait mis autant d'argent, parce que ça coûte très cher, dans cette opération, parce qu'il va y avoir à côté une manifestation littéraire où des écrivains et des comédiens vont venir, façon un peu correspondance d'ailleurs, lire Giono, parler Giono. Il y aura 5 jours sur le cinéma de Giono que je vais animer. Il y aura un grand colloque sur Giono et les paysages en février, où il y a déjà 23 communications de spécialistes de Giono annoncées. Moi, je suis le coordinateur pour du côté de l'association, mais le conseiller scientifique de l'ensemble de l'opération, et en particulier je travaille avec Emmanuel Pagano, qu'on va retrouver aux correspondances en septembre ici, je suis son conseiller sur historique et scientifique pour toute l'opération.
Et on attend la publication d'un livre, Jacques.
D'un catalogue.
C'est Emmanuel Lambert qui
va écrire. Ah oui. Il y a deux choses.
Alors,
Emmanuel Lambert a écrit pour Stock et son éditeur un Giono Furioso, que j'attends avec impatience de lire, puisque elle raconte notre histoire, notre aventure du Mucem, entre autres. Elle nous a dit, Sylvie, Giono et toi, vous êtes des personnages de mon livre. Bon, il paraît que ma sacoche, surtout, l'a beaucoup intéressée. Hein. C'est une adepte du nouveau roman, n'oublions pas. Et puis, il y a le grand catalogue de l'exposition, qui est un album où il y aura énormément de documents inédits. Et il y aura une douzaine d'écrivains d'aujourd'hui qui chacun traite d'une œuvre de Giono. Et moi-même, je toute la partie historique biographique c'était à ma
un gros événement donc
à ma charge. Voilà.
Je rappelle que donc en octobre 2020, ça fera 50 ans que Jean Giono est disparu. Je cherche moi de mon côté, Jacques, je te l'apprends peut-être, des personnes qui ont suivi l'enterrement de Giono ici à Manosque. J'ai déjà trouvé quelques personnes.
Il en reste, oui.
Il en reste et qui ont un souvenir particulier de ce moment où, j'allais dire presque le tout Paris littéraire, est venu à Manosque pour suivre une dépouille d'un écrivain majeur du XXe siècle. Et les journaux, évidemment, ont écrit énormément sur cet événement.
C'est vrai, mais ce que je pense aujourd'hui, et c'est ce que honnêtement, c'est ce que j'attends de ce cinquantenaire, c'est que la stature littéraire de Giono soit vraiment, passe vraiment au sommet. Bon, il y a Proust, hein, il y a deux, trois autres. Bon, mais je pense qu'aujourd'hui, et c'est ce qu'il prédisait, il disait à sa famille, il faudra attendre 50 ans après ma mort pour comprendre ce que j'ai voulu faire. Et on y est. Et je pense que tous les événements qui se préparent, parce qu'il y a le Mucem qui est le navire amiral, mais derrière, il y a 50 événements dans toute la France, hein. Publications diverses, mais...
Des colloques.
Il y aura un colloque qui se terminera à la bibliothèque à Tolbiac, à la Bibliothèque Nationale, en octobre. Et bon, tous ces événements, toutes ces publications, à tous les niveaux, il y aura un numéro spécial des Cahiers du Ventoux, par exemple, le parc régional des Baronnies qui prépare quelque chose autour de Giono et la nuit, Gallica qui va faire un dossier Giono à la BNF, il va y avoir des promenades littéraires dans Marseille, plus tout ce qu'on va faire nous ici sur la DLVA et qu'on aura le temps de développer plus tard, tout ça doit converger, je pense, pour que Giono soit vraiment à ce niveau qu'il avait bien prévu, qu'il aurait 50 ans après sa mort, parce qu'il était parfaitement conscient de la valeur de son œuvre. Et surtout, ce qui est frappant, c'est que de son temps, il y avait un nombre d'écrivains qui étaient tous académiciens français, ceci, cela, qui étaient des vedettes, qui vendaient peut-être plus de livres que Giono, et qui aujourd'hui se sont peut-être même plus édités, en tout cas plus lus et quasiment pas étudiés. Alors c'est une autre littérature peut-être, mais on pense à André Mauroy, Georges Duhamel, à ces gens-là qui étaient des noms, qui sont aujourd'hui
presque oubliés.
Ouais. Et c'est ça dont on s'aperçoit, c'est que il y a cette, et c'est vrai pour tout le temps, hein, c'est vrai pour aujourd'hui. Aujourd'hui, vous avez des noms, vous en recevez ici au moment des correspondances, qui sont, on parle que d'eux, hein. Et puis, mais on sait pas du tout, dans 50 ans. Giono, lui, savait que 50 ans après lui, son œuvre serait toujours là. Et c'est ça qui est étonnant, c'est qu'elle est toujours, encore plus, on le voit là, avec l'environnement, l'écologie, etc. Même ce qui a été ridiculisé en son temps, est-ce que lui-même avait rejeté, parce que tous ces livres-là, il y a qu'à voir les dédicaces, Lettre aux paysans, ce truc inutile, les vraies richesses.
Et pourtant.
Bon, il a rejeté cette partie de son œuvre puisqu'elle n'avait pas servi à ce pourquoi il l'avait écrite, arrêter la guerre. Bon, j'ai pas pu arrêter la guerre, donc ça servait à rien, donc on met de côté. Et en fait, c'est une partie qui est en train de se revivifier. Parce qu'il avait quand même anticipé, qu'on le veuille ou non.
Et on doit cette revivifiance, tiens, j'invente un mot tant qu'à faire.
Revivification.
Oh là là, encore un autre mot. Notamment des gens comme toi, Jacques, qui ont pris leur bâton de pèlerin pour dire, bon, ils lisaient cet écrivain extraordinaire qu'est Jean Giono, ce précurseur très particulier, que ce soit de l'écologie, que ce soit des réglementations climatiques, ou en tout cas de l'image de la nature, une nature farouche.
Le climat, il n'avait pas trop anticipé. Il avait surtout anticipé, oui, finalement, l'urbanisation galopante, la dénaturation, parce que dénaturation, c'est un mot qu'on trouve chez Rousseau, dont Giono n'était pas très très amateur, mais auquel il a souvent été comparé, et qu'on trouve chez lui. C'est-à-dire que, finalement, qu'est-ce que c'est les OGM, hein ? Il parle du blé dénaturé par l'homme. Tout ça, sous des formes différentes, ça s'est révélé arriver dans nos vies, quand même, même après sa mort.
Et c'est le sens de cette manifestation, la 14e rencontre de Giono. C'est du
31.
Du 31, mais le 30, il y a quand même l'exercice Bannonné.
Oui.
Et du 31 juillet au
3 août. Jusqu'au samedi 3.
À Manosque, donc. Et puis, je t'annonce aussi que tu seras convoqué ici, même pendant les correspondances, Jacques, avec probablement Emmanuel Lambert et Clémentine Mélois, qui est une des personnes qui a participé.
C'est une des plasticiennes qu'a choisi Emmanuel parce qu'il y a 5 commandes d'artistes dans l'exposition. Donc qui entre en résonance un peu avec toute la partie. Alors ça, c'est le domaine d'Emmanuel Lambert. Là, j'ai je sais pas tout même pas, j'en ai rencontré deux, je crois sur les cinq, mais bon, moi je m'occupe de la partie historique, documentaire, archives, etc.
Le travail est bien réparti.
Et donc, oui, ça, je borne les choses de ce côté-là.
Et donc, juste avant l'inauguration au MUCEM, eh bien, il y a la parenthèse des correspondances, et ici même, il y aura, je pense, on délivrera quand même pas mal d'infos sur
oui,
ce sujet.
Oui, absolument. On en saura plus sur beaucoup de choses
et
aussi.
Et on en profitera. Et le journal Furioso d'Emmanuel Lambert sera paru, je l'espère.
Ah oui, non, il sera paru. Oui.
On pourra en parler avec elle ici même, avec le porteur de la sacoche en question.
Voilà.
Merci beaucoup, Jacques, d'avoir
Merci,
été
François.
Mon invité. Bonne rencontre, Giono.
Merci.
C'est cette semaine que ça démarre à Manosque. On trouve le programme, bien sûr, sur le site de la DLVA.
Et le site rencontregiono.fr.
Évidemment. Merci aussi, Chloé, pour la régie. Bonne journée à tous et à demain.
Merci François et bonne journée sur Fréquence Mistral.